CQFD. Nous recevons ce matin Katharina Fromm, professeure de chimie à l'Université de Fribourg. Quelques mots sur notre invitée, Uma Camis.
Avec plaisir. Katharina Fromm est d'origine allemande. Elle a étudié aussi bien en Allemagne, à Karlsruhe notamment, et elle a étudié aussi en France, à Strasbourg, où elle a fait son post-doctorat sous la direction de Jean-Marie Lène, un prix Nobel de chimie. Et après un passage à l'Université de Genève, elle exerce aujourd'hui en tant que professeure à l'Université de Fribourg depuis bientôt 10 ans. Elle est également vice-présidente du Conseil de recherche du Fonds national suisse. C'est aussi la première personne en Europe à avoir été nommée fellow de la Société américaine de chimie. J'ai dit fellow et pas membre, parce que fellow, c'est un statut particulier pour les chimistes de grande envergure. Alors évidemment, je pourrais vous égrener les prix et les distinctions qu'elle a reçues, mais Katharina Fromm est plutôt du genre modeste, alors je ne vais pas insister. Mais c'est vrai que je brûlais d'impatience de vous la présenter. Parce que Katharina Fromm vous le dira elle-même, la chimie est partout autour de nous. La chimie, c'est la base de la vie. Et la vie, elle, en revanche, elle est parfois un petit peu acide avec moi. Pour être tout à fait honnête, je n'étais pas une très très bonne élève dans cette discipline.
Moi, ça me rassure un petit peu, comme ça on sera deux. C'était pas votre élément, en fait.
Non, pas vraiment, c'était pas mon élément. Pour tout vous dire, c'était plutôt un complexe. Et pourtant, quand j'ai rencontré Katharina Fromm, j'ai ressenti une grande émulsion. Non, je veux dire une grande émotion,
d'accord,
évidemment. Parce que si Katharina Fromm étudie les réactions de la matière, elle sait surtout transformer sa matière. Sa discipline, elle sait la concentrer, en extraire l'essentiel et établir des ponts entre la science et la société. Et son catalyseur, c'est un sourire pétillant et un esprit rayonnant. Bienvenue à vous, Katharina Fromm.
Merci. Bonjour.
Bonjour, Katharina Fromm. La chimie, comme le disait Uma, elle est partout autour de nous. Maintenant, c'est incontournable. Mm-hmm. Vous arrivez encore à regarder un objet sans y voir des molécules ou les atomes qui sont dedans ?
C'est vrai qu'on regarde la nature d'une manière différente si on a fait des études de chimie, mais c'est toujours fascinant de se poser la question, par exemple, pourquoi notre corps est-il de manière constante à 36 degrés, de quoi est fait le bois, pourquoi est-ce que je peux être assise
là autour de
sur
vous,
ma chaise,
table, le micro,
la table, etc., etc. Donc ça c'est vraiment fascinant et il y a encore des miracles à découvrir, donc c'est pas encore fini.
Mais ça a l'air interminable, cette histoire. De toute façon, il y aura toujours d'autres questions derrière les questions.
Absolument, absolument.
D'accord. C'est une question un peu provocatrice, mais à quoi ça sert d'étudier la chimie au fond? Les choses sont ce qu'elles sont, voilà.
Oui, mais justement, il y a les détails tels que la chimie qui se passe dans notre corps, dans notre biologie en quelque sorte, qui sont tellement complexes que il faut parler avec les collègues en biologie, avec les collègues en physique pour comprendre la matière et il y a encore énormément de travail. Si on s'imagine que dans un alphabet normal, vous avez une vingtaine de lettres, dans l'alphabet chimique, vous avez une centaine d'éléments chimiques et avec ça, on peut faire énormément de mots différents, on peut raconter énormément d'histoires en fait différentes.
Alors, dans la science de base, la chimie a un peu mauvaise réputation. Hein. Quand on parle de pollution, on pense à la chimie. Le XXe siècle a été marqué par la chimie, les hydrocarbures, etc., etc. Est-ce que c'est injuste, selon vous, cette image qu'a la chimie ?
C'est vrai que on parle souvent des accidents chimiques. On ne parle jamais d'un accident pharmaceutique, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre en fait aussi au grand public, c'est que la chimie, elle est autour de nous. C'est quelque chose qui est naturel. Toutes les transformations de la matière, c'est de la chimie en quelque sorte. Aussi quand on cuisine, quand on lave les vêtements, quand on imprègne les vêtements d'une certaine couleur, par exemple. Et la chimie, elle a aussi contribué à énormément de bonnes choses, donc à énormément de produits qu'on utilise tous les jours et qui sont très très utiles. Et on oublie souvent que derrière tout ça, il y a de la chimie.
On en a abusé ?
On en a probablement aussi abusé, ça c'est sûr. On parle peut-être des antibiotiques qui sont aussi abusés aujourd'hui. Mm-hmm. Aussi la poudre noire, hein, c'est la toute première histoire aussi. Donc oui, mais c'est vrai que c'est dans notre responsabilité à la fin de ce mm-hmm. qu'on en fait.
Vous êtes allemande, vous avez commencé vos études en Allemagne. La recherche en Suisse, en Allemagne, c'est très différent la manière d'aborder les choses ?
Non, je pense que les deux pays sont très similaires au niveau de l'éducation et aussi au niveau de la recherche. Mais il est vrai que, par exemple, à l'université de Fribourg, ce qui est avantageux, c'est qu'on peut faire les études de manière trilingue et transmettre donc non seulement la chimie, mais en même temps les langues. Et ça, j'adore.
Les deux en même temps, s'il
les
vous plaît.
Les deux en même temps.
Alors on imagine, c'est vrai que l'iconographie veut que le chimiste soit un vieux monsieur en général et pas une femme dans un laboratoire enfermé avec des fioles et des trucs qui bloubloutent. On est loin de ça maintenant avec la chimie.
Bon, la chimie, elle reste toujours une science expérimentale, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, un professeur en chimie, par exemple, c'est plutôt un manager. Il doit s'occuper des projets de recherche, de l'enseignement et plein d'autres choses. Et qui c'est qui fait la recherche? C'est les collaborateurs et collaboratrices. Et donc, le bonjour à mon groupe de recherche.
Alors, chimie, c'est quand même un terme très très général. Autrefois, on faisait la distinction entre la chimie organique, la chimie minérale, la cristallographie. On avait découpé cette science en sous-groupes, en sous-catégories. Selon vous, c'est encore une distinction qui existe ?
C'est au niveau de l'enseignement encore que cette différence existe. Pour enseigner au niveau bachelor, je pense que c'est important de garder encore cette différenciation. Mais en recherche, aujourd'hui, on est interdisciplinaire, non seulement à l'intérieur de la chimie, mais on va aussi plus loin vers les autres domaines. Donc, je pense que cette différenciation, elle est en train de disparaître dans la recherche.
Merci Katharina Fromm pour ce premier aperçu de votre discipline. On va vous retrouver dans un instant pour aborder avec vous quelques-unes de vos recherches actuelles. Il sera question notamment de prothèses et d'implants médicaux. Restez avec nous, on se retrouve après ce disque.
Strangers.
écoutez CQFD, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Katharina Fromm, professeure en chimie à l'Université de Fribourg. On a découvert brièvement en quoi consiste la chimie aujourd'hui. On va se pencher à présent sur les travaux que vous menez dans votre groupe de recherche. Un de vos thèmes de recherche, c'est la fabrication d'implants de prothèses avec des recouvrements antimicrobiens. On va y revenir, on va s'apesantir sur ces sujets-là. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est et comment ça marche ?
On travaille là avec des composés d'argent et on sait depuis longtemps que l'argent est en fait antimicrobien sans connaître le mécanisme à niveau moléculaire. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ces composés à base d'argent, on va les déposer à la surface d'un implant et l'argent va protéger cette surface qui est une surface, on va dire, inerte par rapport au corps humain qui a un système de défense naturelle, alors que ce matériau artificiel n'en a pas. Donc il faut protéger ce matériau artificiel avec l'argent contre les bactéries qui peuvent attacher à la surface.
Mais concrètement, on recouvre avec une feuille d'argent ou on recouvre comment cet implant ?
Il y a des gens qui ont effectivement recouvert cet implant avec de l'argent métallique, mais ça a moins bien fonctionné que si on utilise des composés à base d'ions d'argent ou alors des nanoparticules d'argent qui ont un relargage d'ions d'argent un peu mieux contrôlé pour ce qu'on a besoin à l'intérieur du corps.
Alors juste pour redonner l'image à nos auditeurs, ça fait quelle taille une nanoparticule ?
Alors une nanoparticule c'est à peu près un millionième d'un mètre. Mm-hmm. Alors pour mettre ça un peu en rapport avec quelque chose qu'on peut voir, c'est si on prend le diamètre ou le rayon de la Terre par exemple et qu'on compare la taille de la Terre à une balle de ping-pong.
D'accord, ça parle. Ça, c'est la taille d'une nanoparticule.
Et ces nanoparticules, elles existent dans la nature ou il faut les fabriquer ? Comment on les met en place ?
Effectivement, dans la nature, il y a des nanoparticules. On vit avec les nanoparticules d'une manière générale. Mais ces nanoparticules ont souvent tendance à s'agglomérer, en particulier les nanoparticules d'argent. Donc, il faut les stabiliser chimiquement. Et donc, ça, c'est aussi un art. Un savoir-faire qu'on a au laboratoire, c'est de stabiliser ces nanoparticules d'argent.
Donc on connaît les propriétés de l'argent, les propriétés antimicrobiennes. On sait fabriquer des nanoparticules d'argent, on sait fabriquer des prothèses. Qu'est-ce qui reste encore à améliorer dans cette idée ?
Bon, la biologie, elle est assez complexe. Donc ça marche très bien dans un milieu in vitro, en quelque sorte. Mais après, dans le corps humain, il faut bien connaître les interactions. Il faut améliorer la résistance mécanique, par exemple, parce que si on s'imagine qu'on a une hanche artificielle et qu'on marche avec, il faut que ça résiste mécaniquement. Et il faut améliorer la biocompatibilité, donc il faut que ça soit biocompatible avec notre corps. En même temps, il faut que ça reste antimicrobien, donc que ça tue les bactéries. Mm-hmm. Et puis, à la fin, il faut que ça soit aussi esthétique.
Pourquoi esthétique ?
Bien, les médecins, ils ne veulent pas implanter une prothèse qui est, par exemple, grise ou noire. Ils veulent que ça soit joli, brillant, métallique, propre, en quelque sorte, pour implanter ça. Donc là, il y a aussi un peu une culture.
Il faut que ce soit pratique pour eux aussi, chirurgicalement, à implanter.
Il faut que ce soit pratique, mais aussi, faut que ça ait un aspect un peu précis, on va dire. Sinon, les médecins, ils
ne
veulent pas l'utiliser.
C'est une demande.
C'est une demande, effectivement.
Il ne faut
pas que ça soit trop noir ou trop...
Il faut que ça soit un peu caréné, hein, ça fasse
voilà,
envie quoi,
que ça soit
à utiliser.
On va voir.
Ouais. On en est où ? On verra bientôt vos prothèses sur le marché ?
Alors, on a effectivement un projet avec une entreprise pour tester ces implants en direct dans les animaux. Et une fois que ça s'est terminé, on va pouvoir passer dans le patient.
Ça sera sur quels animaux ?
À présent, donc on a commencé avec des souris et à présent, on travaille sur des lapins.
Et quel est le problème que vous cherchez à résoudre là, en ce moment même, dans votre métier de chimiste ?
Donc, un challenge, c'est de comprendre aussi la résistance des bactéries envers l'argent. Donc, il y a quelques bactéries qui ont une résistance contre l'argent et qui peuvent transmettre cette résistance aux bactéries qui sont dangereuses pour les implants,
ah
par
bon.
Exemple. Et donc, on doit comprendre aussi ce mécanisme-là. Donc la chimie bio-inorganique de l'argent en quelque sorte. Et ça c'est un des challenges pour la suite aussi, de savoir comment on peut améliorer ces implants, ces recouvrements d'implants.
On entend bien dans ce que vous évoquez dans ce projet-là, il y a une collaboration avec plein de disciplines, hein, des médecins, des microbiologistes. Combien il faut en tout de spécialistes quand on a une idée comme celle des prothèses antibactériennes?
Bon, à présent, on collabore avec pas mal d'autres collègues en médecine, en biologie, la microbiologie, la biochimie, et puis les chimistes qui sont en fait, en quelque sorte, en début de la chaîne de production. C'est clair que toutes ces disciplines parlent une langue différente, et donc il faut apprendre à se parler, il faut communiquer pour savoir ce qu'on est en train de faire et ce qu'il faut faire ensuite pour compléter les études.
Cette collaboration, elle est nationale ou internationale ?
À présent, c'est une collaboration qui est nationale, mais par exemple, pour faire certains tests dans les animaux, on va aussi à l'étranger.
Ce sera ça l'avenir de la science, à votre avis, par exemple sur des projets comme ça, c'est des collaborations à tous les coups ?
Pas à tous les coups. Je pense qu'il faudra toujours des spécialistes dans certains domaines bien précis et bien étroits, parce que c'est là où on fait les avancements, les avancées dans un certain domaine bien précis. Mais les gros problèmes, par exemple la résistance microbienne, ça c'est quelque chose qu'il va falloir attaquer en commun, de manière transdisciplinaire.
Parce que c'est vrai que c'est un grand problème. Je ne savais pas que ces cellules pouvaient aussi
transmettre
ça. C'est un vrai problème. C'est étonnant, à la limite, par rapport à un antibiotique, mais par rapport à un métal, ça me paraît étrange.
Oui, ce sont des pompes à efflux qui sont encodées en fait sur l'ADN. Et donc, les brins d'ADN qui décrivent en fait cette pompe à efflux peuvent être transmis d'une bactérie à une autre.
Alors, on parle de nanoparticules, c'est un mot qui revient très souvent hein, en ce moment dans la recherche, notamment les nanoparticules d'argent, on les utilise un petit peu partout, sur les vêtements, dans les cosmétiques. Est-ce qu'il faut en avoir peur ? Justement, vous soulevez la question des résistances de certaines bactéries qui peuvent devenir résistantes. Est-ce qu'il faut avoir peur des nanoparticules ?
Alors, il y a eu effectivement de la part du Fonds national tout un programme de recherche sur les risques et aussi les opportunités des nanoparticules. Je pense que c'est un peu comme avec beaucoup d'autres composés, c'est la dose qui fait le toxin, en fait, la toxine. Donc, les nanoparticules sont naturelles. Je l'ai déjà dit avant que c'est quelque chose avec quoi on vit. Donc, je ne pense pas qu'il faut en avoir peur plus que ça. Donc, c'est naturel, ça nous entoure. Et puis dans la nature, les nanoparticules vont très vite agglomérer aussi pour faire des particules plus grandes.
J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de laboratoires qui travaillent justement sur ces ions d'argent, sur ces nanoparticules d'argent, sur les prothèses aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui sera très utile demain avec une population qui vieillit. C'est une compétition entre les laboratoires ou c'est plutôt une collaboration ?
Il y a toujours une compétition, tout comme il y a aussi plein d'opportunités pour collaborer, en fait. Quand on présente sa recherche lors d'une conférence scientifique, que ce soit à l'oral ou alors par écrit sous forme d'un papier scientifique, c'est clair qu'il y en a d'autres qui travaillent dessus, qu'il faut citer. Et il y a toujours aussi des gens qui viennent par après demander si on ne peut pas collaborer sur tel ou tel sujet. Le tout est tellement complexe que je pense qu'il y a chacun qui peut trouver sa place là-dedans. Et donc, il y a encore tellement de choses à faire. C'est plutôt bien d'avoir beaucoup de gens qui travaillent sur des sujets à grande envergure.
Moi, je voulais revenir un petit peu sur ces prothèses. Est-ce qu'on a l'idée de quelles prothèses particulièrement ? Est-ce que c'est en orthopédie ou est-ce que c'est en chirurgie cardiaque ? Ça serait en quoi ? Dans quel domaine ces prothèses ?
À présent, on travaille plutôt sur des prothèses métalliques qui sont donc plutôt des hanches ou des genoux artificiels.
En orthopédie, donc, ouais.
En orthopédie, mais on peut très bien s'imaginer aussi d'aller dans le dentaire ou sur des composés polymères. Donc, ça serait plutôt des shunts, des stents qu'on utilise aussi.
Cardiaque alors.
Voilà, tout à fait. Ouais. Donc on peut en principe l'appliquer sur beaucoup de matériaux qui sont déjà actuellement utilisés en médecine.
En l'occurrence, là, pour des prothèses, vous êtes au stade de la souris et du lapin, me disiez-vous.
Tout à fait. Hein.
Ouais. Donc ça voudrait dire que les futures prothèses, il faudra les essayer sur des animaux plus grands encore.
En général, on utilise par exemple le porc. C'est l'animal qui est le plus proche de l'humain et qui est aussi très sensible avec son système immunitaire pour dire s'il y a éventuellement des incompatibilités Ce serait la prochaine étape.
Bon, on voit, on sait hein, que les étapes, ben, elles mettent du temps à s'installer, etc. Mmh. Vous avez l'impression que vous allez voir arriver ces prothèses sur le marché tôt ou tard dans combien de temps? 5-10 ans?
On parle là plutôt de 10 ans, je pense. Ça, c'est un peu un temps normal pour ce genre de...
10 ans? Pour des prothèses antibactériennes?
Pour des prothèses, oui. Ouais, c'est ce qu'il faut compter.
Mais est-ce qu'il y a un risque pour ce type de prothèse de développer des allergies? Il y a des gens qui sont allergiques à certains métaux. Est-ce que le métal est
par
un...
exemple
est-ce que l'argent est un métal particulier qui ne provoque pas d'allergie?
Ce qui est bien avec l'argent, c'est que l'argent n'a pas de rôle biologique en soi. Alors que le cuivre en a, et qui, donc l'argent lui-même, il ne va pas interagir avec son propre rôle qu'il pourrait avoir dans le corps, parce qu'il n'y en a pas. Donc il est relativement innocent, donc le corps ne connaît pas trop l'argent, et c'est vrai que quand vous faites des boucles d'oreilles, là, souvent on utilise les boucles d'oreilles en argent pour éviter qu'il y ait une réaction allergique. Et donc, encore une fois, ça c'est peut-être spécial avec l'argent, et c'est pour ça que j'aime bien cet élément-là, que ça c'est un métal qui est relativement innocent dans le corps.
Et l'idée de l'argent, c'était vous ?
Non, il y a déjà eu d'autres personnes qui ont testé l'argent sous plein d'autres formes, mais pas sous cette forme de composé qu'on a nous.
D'accord.
Et les nanoparticules et les nanocapsules qu'on fait avec l'argent à l'intérieur, les déposer à la surface.
Il y aurait des avantages sur le titane, par exemple?
Donc, ça, c'est en combinaison avec le titane. Donc, les implants sont en titane et nous, on dépose en fait nos composés à la surface des implants en titane.
Est-ce qu'il y a d'autres métaux qui pourraient avoir ce rôle antimicrobien?
Alors, il y a d'autres métaux dont on sait qu'ils sont antimicrobiens, comme le cuivre ou le zinc, par exemple, ou le bismuth. Mais justement, le zinc et le cuivre ont des rôles aussi naturels, donc sont dans notre corps. Et si on va rajouter du zinc davantage, par exemple, on pourrait aussi dérégler en fait certaines réactions qui sont naturelles dans notre corps et qui tout d'un coup vont être déréglées. Donc, le risque d'une réaction secondaire est peut-être plus grand avec les autres métaux.
Je ne connaissais pas le bismuth.
Oui.
J'avoue, hein, je suis nulle en chimie. C'est quoi le bismuth?
Le bismuth, c'est aussi un métal. Et il y a des composés de bismuth qui sont utilisés pour désinfecter après le rasage.
Ah, d'accord.
Par exemple.
Les messieurs, autrefois, utilisaient des choses à partir d'aluminium après le rasage.
Oui, c'est pierre d'Alun. Ça, c'est à base d'aluminium. Et puis, il y a aussi certains composés à base de bismuth qu'on peut utiliser pour la même chose, en fait.
On est parti du monde de la chimie pour se retrouver dans le domaine médical avec vous, Katharina Fromm, professeure de chimie à l'université de Fribourg. Mais vous avez plus d'une corde à votre arc. On va se retrouver dans un instant pour s'intéresser à un domaine complètement différent, celui de la fabrication des batteries. Et ce sera après ce disque. Personne d'autre que toi. Katharina Fromm, professeure de chimie à l'Université de Fribourg, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous présenter votre discipline, la chimie. Et oui, la chimie qui ouvre des voies dans de nombreux domaines. On va s'intéresser dans cette troisième partie d'émission aux batteries rechargeables, celles qui par exemple sont dans nos téléphones mobiles et dans nos ordinateurs. On va voir comment vous, chimistes, imaginez des solutions pour améliorer leur fabrication. Mais au fait, comment ça fonctionne une batterie, une pile? On va recommencer les choses par leur début. Comment ça fonctionne?
D'accord. Alors, on a deux électrodes, une cathode, une anode. Entre les deux électrodes, on a un électrolyte qui permet de transporter les ions lithium, dans ce cas-là duquel on va parler. Mm-hmm. Et puis, on a un circuit externe dans lequel vont voyager, en fait, les électrons. Les ions lithium sont chargés positivement, les électrons sont chargés négativement, et donc les deux voyagent ensemble. Les ions lithium à l'intérieur de la batterie et les électrons à l'extérieur de la batterie, c'est là où on récupère en fait le courant pour nos téléphones portables, par exemple.
Ça, c'est le fonctionnement de la batterie.
Et vous, vous vous intéressez spécifiquement aux cathodes. Le but, c'est d'améliorer un petit peu la fabrication des batteries rechargeables. Alors, comment on peut les améliorer?
Okay. Les batteries, les cathodes qu'on fait aujourd'hui sont pour la plupart en tout cas faits d'un oxyde de cobalt et de lithium, le lithium cobalt oxide. Et c'est un matériau qui est sous forme d'une poudre qui a des grains de taille microscopique. Donc le micron 10 puissance moins 6 mètres. Et ce qu'on essaye d'améliorer, c'est effectivement de rendre ces particules plus petites. Aujourd'hui, si on synthétise le lithium cobalt oxide, on le fait à partir de carbonate de lithium et d'oxyde de cobalt qu'on chauffe. Ce sont deux poudres qu'il faut chauffer, c'est une réaction à l'état solide, ça prend énormément de temps pour se former. On doit travailler à des températures entre 700 et 900 degrés pendant plusieurs jours même, sous oxygène, pour obtenir enfin cette poudre de lithium cobalt oxide qui a ses grains à la taille microscopique. Maintenant, un matériau de cathode, il doit avoir soit des canaux, soit alors des couches pour que les ions de lithium peuvent s'intercaler là-dedans. Si la taille d'un grain est relativement grande, ce qui est le cas dans le cas du micron, c'est déjà relativement grand, on peut s'imaginer que les petits ions lithium qui sont captés au centre de cette particule ont beaucoup de mal à sortir de la particule. Donc, ça prend beaucoup plus de temps pour un lithium qui est au centre de sortir de son grain. Alors, si on rend les grains plus petits, on revient à la taille du nano. Mm-hmm. Donc, si on fait les grains plus petits, un petit ion lithium peut plus facilement sortir en fait du grain que dans le gros grain du micron.
Donc, on fabrique des plus petites cages pour ions.
On essaye, voilà. On essaye
pour ions.
Exactement.
D'accord. Et le fait de faire ça, ça permet aussi de réduire les énergies utilisées. Enfin, en tout cas, le processus permet aussi de réduire.
Alors, effectivement, entre 700 et 900 degrés, il est impossible d'obtenir des particules de taille nano. Parce que sur plusieurs heures, les particules peuvent en fait grandir. Et donc, on a essayé dans notre recherche de réduire et le temps de réaction et la température de réaction. Et donc, au laboratoire, on sait aujourd'hui faire des nanoparticules de lithium cobalt oxide à des températures style 350 degrés dans un délai de 2 à 3 heures. Mmh. Donc ça, c'est vraiment déjà un temps et une température plus court, relativement plus bas que la réaction à l'état solide.
Alors, j'étais pas très très bonne en chimie, mais j'avais l'impression que rien ne se perd, rien ne se crée. Vous arrivez à réduire le temps, vous arrivez à réduire les températures, mais cette énergie, enfin bah, typiquement pour la température, cette énergie, elle a été prise quelque part. Elle est où?
Vous avez parfaitement raison. Donc effectivement,
c'est
il faut
pas
investir.
Si nul que ça en chimie.
Voilà. Donc en fait, il faut effectivement préorganiser les molécules avant. Donc il faut faire plusieurs étapes chimiques avant pour créer un précurseur dans lequel les ions métalliques sont déjà préorganisés, ce qui permet effectivement de décomposer ce précurseur à des très basses températures dans un temps très court pour obtenir les nanoparticules de lithium cobalt oxide à la fin. Donc ça coûte quand même beaucoup d'énergie pour préorganiser déjà les ions avant, pour faire cette chimie qu'on fait avant, mais ça permet, de l'autre côté, d'obtenir les nanoparticules qui autrement ne sont pas accessibles et qui ont quand même des meilleures propriétés pour les petits ions lithium, pour rentrer et sortir de ces particules.
Donc c'est un peu comme si, au lieu de cuire une très grosse pièce de viande, je vais faire un émincé et puis ça cuira plus vite.
En quelque sorte.
C'est un peu
c'est
ça.
C'est une bonne comparaison, oui.
Merci. Et en ce moment, vous cherchez quoi ? C'est quoi votre graal dans ce domaine ?
Alors, dans ce domaine-là, on aimerait bien faire ce nanomatériau-là en grande quantité pour pouvoir convaincre une industrie à reprendre ce genre de système et pour faire des batteries avec nos nanomatériaux, en quelque sorte. Ça serait super. Donc ça, c'est au niveau des batteries. Et puis, au niveau des implants dont on parlait avant, c'était effectivement de comprendre cette résistance bactérienne et de mieux savoir ce qui se passe à ce niveau-là.
Mmh. La pensée, quand vous lancez dans une recherche, que ce soit pour les prothèses ou de l'autre côté pour les batteries, la pensée de « il faut trouver quelqu'un qui le reprend », elle est là avant le fait de vous jeter dans le projet ou après ?
Non, ça vient après parce que on voit toujours l'application potentielle, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut savoir est-ce que c'est un bon produit qu'on peut revendre à une industrie, est-ce qu'une une industrie peut s'y intéresser ? Et ça, c'est pas toujours donné.
Oui.
Et on est quand même au fond de nos cœurs, on est des chercheurs, on est, dans mon cas, chimiste. Et c'est clair qu'on n'a pas, c'est pas notre première pensée de comment vendre le produit à la fin de la journée.
Mais oui, c'est la poule et l'œuf, quoi. Il faut bien avoir des moyens aussi pour continuer les projets et en même temps, il faut bien avoir des idées pour avoir des projets.
Exactement.
Bon. D'autres sujets encore où vous avez du temps encore, à part les prothèses et les batteries, d'autres projets sur lesquels vous auriez envie de vous pencher ?
Donc, cette biochimie de l'argent, ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore travaillé beaucoup avec. C'est l'interaction en fait des protéines avec l'argent pour mieux comprendre cette chimie-là. Et ça c'est un très grand domaine de recherche que j'aimerais bien attaquer dans le futur.
Il y a la recherche, mais il y a aussi l'enseignement. Hein. Vous enseignez à l'Université de Fribourg. Est-ce que la manière d'enseigner la chimie a changé entre le moment où vous avez fait vos études et où moi j'ai fait mes études et aujourd'hui ?
Je pense qu'en tout cas, la théorie, donc la transmission du savoir dans l'auditoire, ça a pas mal changé parce que à l'époque, ça se faisait en fait au tableau noir. Aujourd'hui, c'est PowerPoint. Hein. On a les plateformes d'enseignement comme Moodle, etc. Donc ça a beaucoup changé. Ce qui est avantageux aussi à Fribourg, c'est qu'on a des petits nombres d'étudiants. Donc l'interaction, elle est devenue beaucoup plus directe entre l'étudiant et les profs. On a des très bons contacts avec les étudiants. Et ça, c'est aussi un plaisir, en fait. Puis bon, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est que le diplôme qu'on l'appelait avant n'existe plus. C'est maintenant le bachelor et le master qu'on fait. Au master, on enseigne en anglais. Ça, c'est quelque chose qui est aussi nouveau. Et bon, à Fribourg, on enseigne trilingue. Donc au bachelor, c'est allemand et français. Et puis après, le master en anglais.
Trilingue et vulgarisatrice. Vulgarisatrice, ça vous est venu comment ? Parce que vous êtes assez douée hein, pour vulgariser les choses. C'est quelque chose que... Vous avez toujours cette passion d'expliquer aux autres ou...
J'ai un peu une mission privée, entre guillemets, c'est d'améliorer un peu l'image de la chimie auprès du grand public. Parce que
il y a du boulot.
Il y a du boulot et effectivement, je peux raconter pas mal d'anecdotes à ce niveau-là. Mais il est vrai que c'est un grand plaisir de travailler, par exemple, avec des enfants entre 8 et 12 ans. Quand on leur parle de chimie, ils regardent, mais avec des grands yeux, ils posent des questions, ils veulent savoir. Il y a cet enthousiasme qu'on peut transmettre en direct. C'est one-to-one, là. Mm-hmm. C'est très, très, très sympathique. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine aussi, de parler aux jeunes. Et c'est clair que ça ne va pas si on n'arrive pas à vulgariser un petit peu la science aussi.
Alors justement, vous parliez d'enfants, vous avez participé avec l'Académie suisse des sciences naturelles à un livre destiné aux enfants, La chimie avec Globi. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Tout à fait. Donc ça, c'est un livre qu'on a émis en 2011 pour l'année internationale de la chimie. Et d'abord paru en allemand. Il décrit en fait des expériences qu'on peut faire à la maison avec le matériel qu'on trouve à la maison.
Ça, c'est chouette.
Et ça, c'est vraiment très sympa parce que les parents peuvent, avec les enfants, se mettre autour d'une table avec ce livre-là et travailler un peu les différentes expériences. Il y a les explications qui vont avec. Et donc, ça, c'est quelque chose qui en plus... parle même aux adultes. Même les adultes adorent ce livre.
Alors, juste pour le plaisir, une petite expérience à nous recommander. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Des trucs qu'on trouve dans la cuisine ou, je sais pas, ou dans les placards.
Oui, par exemple, quand vous avez un peu de levure à la maison et que vous mettez ça dans l'eau chaude, vous prenez un gant en plastique que vous mettez sur le verre dans lequel vous avez dissous la levure avec l'eau chaude. Et on attend, et puis on voit le gant qui est en train de se gonfler, qui devient de plus en plus grand. Et puis évidemment, un enfant, il aura énormément de plaisir à voir comment il gonfle ce ballon-là. Et puis quand on comprend que c'est la levure en fait qui vit et qui émet du CO2, c'est sympa déjà d'expliquer la respiration, non?
Oui, il y en avait une autre que j'ai lue dans le livre. Je la partage parce que j'ai trouvé adorable.
Et puis c'est bien pour les jours de pluie. Hein.
Allons-y. Avec les petits nounours, vous savez, les bonbons en forme de nounours, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça?
On peut le mettre aussi dans des liquides différents, puis ça va gonfler. Puis
ah ouais, c'est, ça gonfle. Non, mais c'est vrai. Pourquoi ça gonfle?
Ah, il y a de l'eau, par exemple, qui va...
Petits ours en gélatine, là,
oui,
transparent.
Tout
d'accord,
à fait.
Toutes
donc,
les couleurs.
En fait, c'est comme une éponge, en fait, qui va gonfler lorsqu'on la met dans l'eau. C'est un peu une structure similaire. Et donc, il y a de l'eau qui sera intercalée entre les molécules et entre les pores. Et donc,
ça veut dire si j'en mets un petit dans l'eau, il gonfle?
Il va gonfler après un certain temps.
Donc j'en aurai un plus gros.
Oui.
Mais il aura le goût de l'eau.
Ah oui, il sera gorgé d'eau.
Ouais, ben oui.
Vous êtes aussi vice-présidente du conseil de la recherche du FNS, du Fonds National Suisse. La relève, d'abord, est-ce que la chimie s'intéresse les jeunes gens encore, et puis, enfin les jeunes, et puis est-ce que la relève c'est important là maintenant?
Donc la chimie, oui, et il y a de plus en plus de jeunes qui font des études là chez nous. On voit effectivement les nombres d'étudiants qui sont en train d'augmenter. Et la relève, c'est important parce que en Suisse notamment, c'est notre matière première en quelque sorte, c'est les cerveaux. C'est la matière grise des jeunes. Et donc effectivement, pour le futur du pays, pour le pouvoir... innovant du pays, je pense que c'est très important de soutenir la relève scientifique. Pas seulement en chimie, mais dans tous les domaines.
Alors, on est trois femmes autour de la table. Je vais oser donc poser ma question. Vous êtes une femme scientifique accomplie. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une jeune fille qui souhaite aujourd'hui de se lancer dans une carrière scientifique?
Bon, je pense que d'abord, il faut aimer ce qu'on fait. Si on aime ce qu'on fait, on va réussir aussi tôt ou tard. Il faut avoir ces petits moments de chance ici et là. Ça peut pas être du premier coup souvent. Donc si c'est du premier coup, tant mieux. Mais souvent, il faut attendre un petit peu. Il faut être patient. Il faut persévérer. Et à ce moment-là, je pense qu'on va faire son chemin. Ça vient. Si on fait ce qu'on aime, on trouve toujours un moyen de se réaliser par la suite.
Bon, il faut dire aussi qu'il y a un bel exemple dans le domaine avec Marie Curie qui était... probablement un exemple pour beaucoup, beaucoup de femmes scientifiques dans le monde et pour les chimistes en particulier.
Ça, c'est vrai, oui. Tout à fait.
Juste comme ça, pour le plaisir, dans le tableau périodique, quel est l'élément que vous préférez,
Catherine? Bon, je pense que vous pouvez le deviner, c'est l'argent. Mais il y en a aussi tous les métaux alcalins et alcalino-terreux que j'aime bien aussi.
Pourquoi d'ailleurs?
Par exemple, pour le lithium des batteries, etc. Donc,
Bon, alors, un élément que vous n'aimez pas du tout? Celui que vous voudriez... Est-ce qu'il y en a un qu'on aime moins quand on est chimiste?
Peut-être ceux qui ont un temps de vie trop court, par exemple, avec lesquels on ne peut pas vraiment travailler. C'est les éléments, par exemple, radioactifs, très lourds. C'est difficile de faire quelque chose avec, sauf sous des conditions un peu très spécifiques. Mais ça, c'est difficile à réaliser dans un laboratoire de chimie normal, on va dire.
Et les gaz rares, les gaz inertes, ils réagissent avec rien, ils sont pas drôles.
On peut les faire réagir, bon, c'est un peu sous des conditions spéciales aussi, mais est-ce que vous saviez que le xénon, par exemple, peut être utilisé comme un gaz qu'on peut respirer avant une opération, par exemple médicale, on ne ressent plus la douleur, et une fois l'opération est terminée, on va faire sortir le xénon des poumons et on peut le réutiliser sur le prochain patient. C'est fascinant.
Ah, oui. Le même.
Le même, bien sûr.
Voilà. Moi, je connaissais l'hélium qui change la voix, mais c'est les ballons d'hélium. C'est vrai qu'ils ont une utilité aussi, ces gaz
hilarants, mais ouais. Le xénon, je connaissais pas. Un recyclable, un gaz recyclable. Ouais, parfait. On vous écouterait encore très, très longtemps, hein, Katharina Fromm. On sent qu'il y a ce fond de passion chez vous. Merci, Katharina Fromm, professeure à l'Université de Fribourg, d'avoir accepté de passer cette heure avec nous. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en un mot?
Bonne chance pour la recherche, par exemple.
Allons-y, c'est tout le bien qu'on vous souhaite.
Merci.
CQFD sur la première.